explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ?
Je croyais que j'ai pu regarder les paysages par le hublot.
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Nous n'aurions raté ça sous aucun prétexte. Ce soir débute la 27e édition des Nuits des Étoiles partout en France et en Europe. Des centaines de sites se préparent à vous accueillir pour contempler la voûte céleste avec des astronomes amateurs ou professionnels. Animations, conférences, observations, c'est gratuit et enrichissant. Que demander de plus ? Thème principal de ces Nuits des Étoiles 2017, les terres habitables. Ces planètes que l'on détecte hors de notre système solaire et qui pourraient potentiellement abriter la vie. L'occasion pour nous de s'interroger, parmi toutes ces exoplanètes découvertes, combien sont considérées comme habitables et selon quels critères ? Et puis, la grande question, aura-t-on un jour le moyen de savoir si l'une de ces planètes, dites habitables, est habitée ? Vertigineuse question, il nous fallait bien une émission spéciale de 2 heures pour l'aborder.
Le temps d'un bivouac.
Vers l'infini et au-delà !
Sur France Inter.
Bonjour et bienvenue pour ce bivouac cosmique spécial Nuit des Étoiles. Il était crucial de bien choisir l'équipage. Je vous présente donc les membres de cet équipage trié sur le volet. Il y a Franck Celsi, c'est chercheur au CNRS, au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, spécialiste des atmosphères planétaires et particulièrement des planètes hors de notre système solaire. Il a participé à la découverte de nombreuses planètes hors de notre système solaire, ce qu'on appelle les exoplanètes. Il nous sera indispensable pour notre recherche des planètes habitables. Bonjour Franck Celsis.
Bonjour.
Et soyez le bienvenu.
Merci.
Également avec nous Sylvain Boulet, planétologue au laboratoire IDES de l'Université Paris-Sud, spécialiste de géomorphologie planétaire. Il adore vulgariser sa discipline et raconter l'histoire de sa discipline, toujours partant pour participer aux événements de la Nuit des Étoiles. Bonjour et bienvenue Sylvain Boulet.
Bonjour.
Et enfin Philippe Hénarejos, journaliste spécialisé dans le spatial, son journal Ciel et Espace vient de sortir un hors-série très complet intitulé « Terres habitables et mondes inattendus ». Et avec vous, Philippe, nous pourrons aussi revenir sur l'actualité spatiale de ces derniers jours. Bonjour à vous.
Bonjour.
L'équipage est au complet, aux commandes de notre vaisseau Anne-Sophie Ladonne. Le plan de vol a été établi par Mathieu Aoued et Camille Bernard.
Ce soir, le ciel s'illuminera de milliers d'étoiles filantes, les Perséides.
Marie-Odile Monchicourt.
Ce soir, je serai aux côtés d'Hubert Reeves pour la Nuit des étoiles filantes, une émission exceptionnelle proposée par France Inter et Antenne 2 en direct du premier théâtre de la pleine lune près de Montpellier. Une soirée unique pour découvrir les météorites et les astéroïdes, les planètes et les supernovas, les galaxies et les nébuleuses.
La Nuit des étoiles filantes, samedi 10 août 22h15 sur France Inter et Antenne 2 avec Télérama et l'événement du jeudi.
Eh oui, Antenne 2, l'événement du jeudi. Nous étions en 1991, la voix inimitable de Marie-Odile Monchicourt annonçant la première nuit. Alors à l'époque, c'était la Nuit des étoiles filantes. Aujourd'hui, elle est devenue, ce sont les Nuits des étoiles. D'ailleurs, elle est devenue la Nuit des étoiles, puis maintenant, ce sont les Nuits des étoiles. Des animations, des événements organisés aux quatre coins de la France à partir d'aujourd'hui et puis pendant tout le week-end. Le succès ne se dément pas. Sylvain Boulet, c'est un événement auquel vous avez plaisir à participer, vous, régulièrement ?
Tous les ans, c'est quand même le moment important chaque année en astronomie. C'est vrai que moi, j'ai grandi avec ça. Hein. Ouais. La première fois que j'ai vu Saturne, c'était pendant les Nuits des Étoiles Filantes en 1990, donc ouais. Ça remonte un petit peu. Mais du coup, évidemment, tous les ans, on a envie de communiquer. C'est le moment où il faut parler, où il faut se rassembler en France pour observer tous ensemble.
Sacrée dévocation. Franck Celsis, le fait de venir de Bordeaux, nous voir 2 heures ici à France Inter, ça montre aussi que pour vous, c'est important de communiquer ces découvertes, ces grandes découvertes auxquelles vous participez au grand public.
Ah ben oui, faire partager ce frisson un peu de la découverte, de l'inconnu surtout. Hein. Il y a tout ce qu'on sait, mais surtout tout ce qu'on ne sait pas, tout cet aspect exploration, et faire partager ça, c'est indispensable.
Mais on va le faire avec grand plaisir pendant ces 2 heures de bivouac cosmique. D'ailleurs, on se rend compte que la part de communication autour de toutes ces missions spatiales, elle est de plus en plus présente, hein, Philippe Hénarejos. On s'en aperçoit avec la sonde Juno qui est partie observer Jupiter. Elle a 8 équipements scientifiques, hein, qui vont vraiment faire des observations scientifiques. Et puis, il y a un petit appareil, une petite caméra qui, elle, prend des photos uniquement pour le grand public. Mm-hmm. On en a profité, il n'y a encore pas plus tard que quelques jours, avec cet œil rouge qui est à la surface de Jupiter. De quoi s'agit-il ?
Alors cet œil rouge, comme vous dites, c'est ce qu'on appelle la grande tache rouge de Jupiter. Et en fait, c'est un anticyclone. De vue de loin, ça ressemble à un cyclone. Ouais. Les météorologues préfèrent le terme d'anticyclone. Ces histoires de pression qui ne sont pas les mêmes qu'à l'intérieur des cyclones. Mais en gros, c'est un gros tourbillon qui mesure presque 2 fois le diamètre de la Terre, quand même.
Un très gros tourbillon. Qui pourrait engloutir notre planète.
Voilà. Et qui perdure depuis au moins 350 ans, puisque quand les premiers télescopes, les premières lunettes ont été mises au point, c'est une des premières choses qu'on a repérées sur Jupiter. Donc on sait qu'elle est là depuis tout ce temps. Ouais. Et les occasions de la voir de près ont été assez rares, finalement. Il y a quelques sondes qui ont survolé Jupiter. Il y en a une dans les années 90 qui est restée autour, mais qui était handicapée. Son antenne n'était pas bien déployée. C'était la sonde Galileo. Donc, on avait des clichés au compte-gouttes. Et là, grâce à Juno et à sa petite caméra, qui est presque pas une caméra scientifique, c'est quelque chose juste pour faire des photos, pratiquement.
C'est ça, pour des cartes postales, pour envoyer des cartes postales.
Et on grossit un peu, mais c'est ça. C'est vraiment, par rapport aux autres instruments, c'est un instrument beaucoup moins léché que les autres, et on a la vue la plus rapprochée, la plus détaillée de cette tache rouge qu'on ait jamais eue.
Mais comment se fait-il que cet anticyclone, comme vous dites, soit là depuis plusieurs siècles? Alors il a un peu changé de taille, mais quand même.
Alors il faudrait poser la question à des spécialistes des atmosphères planétaires, parce que ces histoires de dynamique, quelle est la stabilité d'un tel système? Alors sur Terre, il y a des cyclones, par exemple, qui dure quelques semaines. On sait tout ça. Il y a des modèles numériques très complexes. L'atmosphère à Jupiter, il faut savoir que Jupiter, c'est une planète qui n'est pas comme la Terre. Elle est beaucoup plus grosse. Et surtout, il n'y a pas une surface avec des océans, avec des montagnes. La pression augmente progressivement. Il n'y a pas véritablement de surface solide. Donc, c'est une boule gazeuse.
Ouais. Tout est d'ailleurs étonnant de parler d'atmosphère sur une boule gazeuse. Là, on ne sait plus trop où est la frontière entre l'atmosphère et la planète.
Voilà, pratiquement, quand on parle d'atmosphère, on parle de la planète elle-même. Ouais, et donc, quelle est la stabilité de ce système? Alors, là aussi, les gens se posent des questions. On ignore un peu, je crois, pourquoi cette tâche dure. Mm-hmm. Elle rétrécit, comme vous le faisiez remarquer il y a quelques instants, à vue d'œil, mais depuis quelques décennies, on s'aperçoit, au début, elle faisait 2,5 fois la taille de la Terre. Là, elle fait plutôt 1,5 fois la taille de la Terre. Donc, c'est quand même sensible. Et on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas si ça annonce sa disparition prochaine. Alors, prochaine, c'est à des ères astronomiques. C'est-à-dire que peut-être que nous, on ne le verra pas. Ouais. Mais est-ce que ça annonce sa fin ou est-ce que c'est juste un passager, on ne le sait pas.
Ouais. Et puis en tout cas, cette sonde Juno va nous en apprendre bien plus justement sur les mécanismes de l'atmosphère. On a vu les aurores polaires aussi sur cette planète, parce qu'il y a aussi des aurores boréales et australes.
Voilà, alors Juno a beaucoup d'instruments et le clou de la mission, ce pourquoi elle a été envoyée, en fait, c'est quand même d'essayer de sonder l'intérieur de Jupiter. Elle doit mesurer le champ gravitationnel précis de cette planète, puisque effectivement, c'est une boule de gaz, c'est des nuages, on voit qu'une surface gazeuse, mais on voit mal ce qu'il y a à l'intérieur. Alors évidemment, on a tout un tas de modèles qui décrivent comment ça doit être, mais c'est quand même mieux de le savoir. Et donc il y a des instruments qui doivent sonder par le champ gravitationnel de Jupiter pour savoir comment se répartissent les masses, comment se répartit la matière à l'intérieur de Jupiter, ce qui doit, in fine, nous renseigner sur le processus de formation de cette planète.
En tout cas, les photos sont superbes, notamment celles de ce tourbillon rouge, et on va les mettre sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac pour que vous puissiez en profiter. Et pendant que Juno est à l'œuvre, une autre sonde, elle, s'apprête à tirer sa révérence. Après de bons et loyaux services quand même, elle a beaucoup œuvré. 13 ans, c'est la sonde Cassini. Alors, on change de planète gazeuse, on se retrouve autour de Saturne.
Un peu plus loin, oui.
Un peu plus loin. Et quelle était la mission de cette sonde?
Là aussi, Saturne n'avait été visité qu'à 3 reprises par 3 sondes. Pioneer 11, Voyager 1 et Voyager 2. C'était des survols à la vitesse d'une balle de fusil, mais peut-être plus rapide encore. Ouais. On avait pris des clichés en descendant la vitre de la voiture, comme ça, au passage. On était très alléchés par beaucoup de choses, notamment Titan, le satellite de Saturne, qui était complètement opaque, sous une atmosphère, lui encore. Mm-hmm. Encore une fois. Et donc le but de Cassini, c'était de sonder ce qu'il y avait sous Titan, de sonder ce qu'il y avait dans les nuages de Saturne, de voir un peu la mécanique des anneaux de Saturne, dont jusqu'à une époque récente, on ignorait vraiment, vraiment tout, c'est-à-dire d'où ils venaient, est-ce qu'ils étaient transitoires, est-ce qu'on est, par exemple, à une époque où, par hasard, il y a eu un corps qui s'est désagrégé, qui a formé des anneaux, et qu'en fait, Saturne n'a pas d'anneaux sur les milliards d'années de son existence. Ou est-ce que c'est quelque chose de pérenne depuis la création du système solaire ? C'était aussi le but de visiter les autres petits satellites glacés. Ouais. Et la moisson a été évidemment énorme, puisque c'était quand même une Terra largement incognita à l'époque. Et on a découvert des geysers sur un petit satellite qui s'appelle Encelade, ce qui laisse présager qu'il y a des poches d'eau sous une gangue de glace. On a évidemment cartographié quasiment en entier Titan. On s'est aperçu qu'il y a des lacs d'hydrocarbures, qu'il y a une véritable météorologie. Et puis voilà.
On y reviendra sur ces petits satellites des géantes gazeuses dans une prochaine émission. Je crois que ce sera le 18 août que nous irons visiter ces satellites des géantes gazeuses avec des petits mondes à chaque fois à part entière. Donc la sonde Cassini, elle, le 15 septembre, elle va plonger définitivement. Nous envoyons jusqu'au bout des données. Hein. Elle va pouvoir analyser l'atmosphère, là encore, de cette planète une dernière fois.
C'est ça. La sonde arrive au bout. Alors, on se demandait ce qu'on allait en faire. On ne voulait pas risquer qu'elle s'écrase sur un de ces satellites parce qu'elle est contaminée par des organismes terrestres, malgré tout. Et donc, s'il y avait la moindre chance pour qu'il y ait une chimie prébiotique qu'on pourrait étudier éventuellement une autre fois, il ne fallait pas la contaminer par une sonde qui n'était pas très bien nettoyée. Donc, le but, l'idée, ça a été de la faire s'écraser dans l'atmosphère de Saturne. Elle arrive à très grande vitesse, donc elle va se désintégrer très rapidement dès qu'elle va rentrer. Ça fera une étoile filante sur Saturne, une énorme étoile filante, un bolide, et elle va prendre des photos jusqu'au bout, envoyer des données jusqu'au bout. On verra quel sera le dernier cliché, mais elle passe déjà dans la zone qu'elle va aborder, puisqu'elle passe en ce moment régulièrement entre les anneaux de la planète et la planète elle-même, ce qui nous vaut des clichés inédits.
Et pour terminer notre petit tour des actualités spatiales récentes, alors c'était le 24 juillet dernier dans la revue Nature, des travaux qui révèlent que les profondeurs du sol lunaire seraient plus riches en eau que prévu. On y trouve donc de l'eau sur la Lune. On en avait déjà observé un peu, mais restons modestes, c'est en quantité infime, hein, Philippe Hénarejos.
De toute façon, c'est en quantité infime. Alors, le fait qu'on analyse, alors c'est toujours les mêmes roches, c'est des échantillons ramenés par les astronautes des missions Apollo, mais on a des moyens d'investigation qui sont meilleurs qu'au cours des décennies précédentes. Et on continue à faire des découvertes. Et cette histoire de l'eau ou de l'humidification des roches lunaires a sans doute une implication que je ne saurais pas développer là, mais sur le processus par lequel la Lune s'est formée. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait à peu près de manière certaine qu'un corps d'à peu près la taille de Mars est venu percuter la Terre il y a 4 milliards et demi d'années environ, que ça a éjecté beaucoup de matériaux, essentiellement du manteau terrestre autour de la Terre, et que ce matériau s'est réagrégé. Il y a eu un anneau autour de la Terre, comme un anneau de Saturne, qui a été assez éphémère, d'où la question d'ailleurs pour Saturne tout à l'heure, et cet anneau s'est réagrégé rapidement et a formé la Lune. Alors, les processus de formation, les énergies en jeu, est-ce que les matériaux qui ont été projetés ont été chauffés au point qu'ils soient complètement secs, est-ce qu'il y a eu des apports d'ailleurs, etc. Tout ça, c'est inscrit dans les roches lunaires. Mm-hmm. Or, on n'y retournera pas de sitôt encore sur la Lune. Donc, on a encore quelques centaines de kilos de roches qu'on continue à examiner pour essayer de préciser toutes ces théories. Et la quantité d'eau à ce niveau, c'est pas beaucoup, mais la quantité d'eau peut nous permettre de préciser le processus de formation de la Lune.
Elle pourrait être utilisée en cas de base lunaire dans de futurs vols spatiaux habités, cette eau sur la Lune.
J'ai l'impression que vu les quantités, c'est pas cette eau-là qu'on utiliserait. Ouais. S'il y a de l'eau sur la Lune, sur les pôles lunaires, dans des endroits à l'ombre qui auraient été amenés par des comètes, etc., il y a peut-être de la glace, en fait, qui serait peut-être plus facile à exploiter. Reste à s'en assurer, mais ce serait pas cette eau-là.
Et puis, il y a évidemment régulièrement des annonces de découvertes d'exoplanètes sur lesquelles on va passer beaucoup plus de temps dans le reste de cette émission. Des planètes donc hors de notre système solaire. Et pas plus tard que le 20 juin dernier, la NASA qui annonçait la découverte de 219 planètes, dont 10 potentiellement habitables. Alors l'avis du spécialiste Frank Celsis sur cette annonce de la NASA du 20 juin dernier.
En fait, il s'agit de la suite de l'exploitation de la mission spatiale Kepler. qui a eu, on va dire, le cœur de sa mission entre 2009 et 2014, et ensuite qui a été handicapé, qui est toujours en fonctionnement, mais sur un mode d'observation différent, mais qui pendant 4 ans a observé un même champ, une petite fraction du ciel, et environ 150 000 étoiles, dans le but de trouver, par leur transit, on reviendra peut-être plus tard là-dessus, des exoplanètes. Et c'est une analyse de longue haleine, il faut éliminer les cas suspects, etc. Donc bien que cette phase-là soit terminée et que le gros des exoplanètes découvertes par Kepler ait déjà été annoncé à plusieurs milliers, eh bien cette analyse continue. Ouais. Et là, on a eu un échantillon d'environ 200 nouvelles, avec parmi elles une dizaine de planètes qui sont de taille et de température, on va dire, assez similaire à la Terre, ce qui doit porter à quelques dizaines ces planètes-là, mais ce qui nous permet de faire de la statistique et de savoir quelle fraction des étoiles ont ce type de planète, et on voit que la majorité des étoiles ont des planètes. C'est ça, c'est une grande découverte de Kepler.
Une découverte qui mérite qu'on y passe du temps dans cette émission. On découvre des exoplanètes comme s'il en pleuvait, des planètes dont on nous dit que certaines sont habitables. C'est le thème de ces Nuits des Étoiles 2017, et elles seront au cœur de nos discussions. Le temps d'un bivouac cosmique spécial Nuit des Étoiles. Nous sommes en direct, et pour adresser un message ou une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. La suprême dimension, c'était Charles Elie Couture sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Ne peut-on pas imaginer des systèmes solaires plus ou moins analogues aux nôtres et, dans ces systèmes, des planètes plus ou moins analogues à la nôtre où le cycle même du carbone pourrait se reproduire?
A priori, on doit admettre, me semble-t-il, que la vie a pu se produire et existe présentement sur d'autres planètes que la nôtre, bien entendu.
Le journaliste Jean-Luc s'interrogeant avec le scientifique Jean-Paul Grasset, qui était un biologiste. Nous sommes en 1952. Hein. Donc là, faut bien voir ce qu'on sait à cette époque-là. À cette époque, Sylvain Boulet, qu'est-ce qu'on sait des planètes? On connaît les planètes de notre système solaire, celles que vous étudiez particulièrement, mais qu'est-ce qu'on sait de ailleurs?
Alors, 1952, on a envoyé pour l'instant aucune sonde visiter nos planètes de notre système solaire. Hein, donc, on les a observées au télescope. C'est ce qu'on connaît de mieux, en fait, la description par le télescope. Évidemment, on est loin des découvertes des exoplanètes. Mais par contre, on les sent un petit peu. C'est-à-dire qu'on les imagine même depuis 300, 400 ans. On se dit que la vie doit être ailleurs. Hein. En ce moment, je me plonge dans Camille Flammarion, avec un ouvrage qui s'appelle Les Terres du Ciel. Ben voilà, le titre veut tout dire, Les Terres du Ciel. Donc lui, évidemment, dans son livre, il trace toutes les planètes et puis il parle évidemment de ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Et c'est pour lui une évidence. Ce qui est incroyable, c'est que certaines personnes sont même en train de calculer le nombre d'habitants qu'il devrait y avoir sur toutes ces planètes.
Hein. Ouais. Alors, on va y revenir d'ailleurs un peu plus tard à Camille Flammarion et à ces mondes fantasmés. À partir de quand, Franck Celsi, on commence à les observer pour de vrai? Parce qu'il y a un pas entre le fait d'imaginer qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas et le fait de dire oui, on sait qu'elles existent.
Oui, alors ça s'est passé dans les années 90, les premières détections. Mais ça partait assez mal parce qu'effectivement, on procède un petit peu par analogie, en extrapolant ce qu'on connaît. Donc, on projetait un peu des analogues au système solaire sur les autres étoiles et on se demandait comment on pourrait les détecter. Et même si les méthodes étaient déjà envisagées, ça semblait hors de portée. Mmh. Et en fait, c'est vrai que si tous les autres systèmes exoplanétaires étaient des analogues du système solaire, aujourd'hui, on n'en aurait peut-être trouvé aucun. Et c'est parce qu'il existe des systèmes avec des configurations différentes, plus faciles à détecter, que les pionniers de cette recherche, qui se sont lancés quand même, on va dire, malgré cet obstacle, ont cherché des choses qui n'étaient pas des analogues du système solaire, notamment des planètes beaucoup plus massives et beaucoup plus proches de leurs étoiles, en ont trouvé. Voilà, ça s'est passé au milieu des années 90.
6 octobre 1995, on annonçait la découverte de la première exoplanète. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Michel Mayor, qui est l'un des découvreurs de cette première exoplanète. Il revenait sur sa découverte au micro de Mathieu Vidard dans La Tête au Carré sur France Inter.
Les premiers signes de quelque chose d'anormal autour de cette étoile, eh bien, venaient en fin de l'année 94.
Oui.
Mais il fallait être sûr que le phénomène physique était bien un compagnon planétaire. Il y avait d'autres possibilités physiques qu'on pouvait imposer liées à des taches sur l'étoile, etc. Et donc, on a voulu jouer la sécurité. On a attendu la saison suivante. Et en juillet 95, les mesures confirmaient ce qui avait été observé l'année précédente. À ce moment-là, on y a cru et on a rédigé le papier.
Michel Mayor racontant comment il a découvert avec son équipe, bien sûr, cette première exoplanète. Tout le monde y a cru tout de suite, Franck Celsis, ou comme souvent dans les grandes découvertes, il y a des sceptiques?
Non, tout le monde n'y a pas cru tout de suite. C'était une mesure, en fait, de la vitesse de l'étoile par rapport à nous et qui montrait une variation périodique, à très courte périodicité, 4 et quelques jours. Donc ça voulait dire que l'année de cette planète, si c'en était bien une, était accomplie en 4 et quelques jours. Et donc on avait là un Jupiter à une fraction de la distance Terre-Soleil de son étoile.
Donc une très grosse planète gazeuse, très proche de son étoile.
Comme si on rapprochait 100 fois Jupiter du Soleil.
Et finalement, on manquait un peu d'imagination. On avait le modèle de notre système solaire et on n'imaginait pas qu'il puisse en être autrement ailleurs.
Bien sûr, parce que on a beau assez bien connaître les théories scientifiques qui œuvrent dans la formation des planètes, elles sont imbriquées dans une telle complexité qu'on n'est pas très prédictif. On est encore dans une phase d'exploration. Et effectivement, par analogie du système solaire, cette planète était anormale. On avait même, je dirais, des théories qui disaient que ça ne pouvait pas avoir lieu. Parce que, en fait, avant cette découverte d'exoplanètes, on pensait, on imaginait la formation des planètes comme un processus assez statique, où finalement la planète allait naître, évoluer à la même distance de son étoile tout au cours de sa vie. Et puisque des planètes comme Jupiter ne peuvent pas se former aussi proche de leur étoile, il a fallu accepter le fait que les planètes se déplacent, migrent, comme on appelle ça la migration des planètes. Et le fait de réaliser ça lors de ces premières détections, et donc bien sûr ces premières détections, elles n'ont pas été acceptées tout de suite, hein, il a fallu qu'elles s'imposent par des observations de grande qualité. Mais le fait de réaliser que les planètes bougeaient, ça nous a aussi permis de bien mieux comprendre le système solaire. Et c'est ça qui est étonnant, en trouvant des objets, des configurations totalement différentes au système solaire. En quelques années, il y a eu une révolution en planétologie sur la formation des planètes, où on a beaucoup mieux compris le balai initial du système solaire et la formation de Jupiter, de Saturne et des planètes telluriques.
Évidemment, ça a ouvert un nouveau champ d'investigation pour les scientifiques qui se sont mis à traquer de plus en plus ces exoplanètes, allant jusqu'à envoyer des télescopes dans l'espace.
Engine start, 1-0 and lift off of the Delta II.
Lancement et mise en orbite réussie pour le satellite américain qui transporte la sonde Kepler. Une mission historique puisque c'est la première à se lancer à la recherche de planètes sœurs de notre Terre et qui pourraient pourquoi pas abriter la vie. Cette nuit, sous des conditions météo idéales, une fusée Delta II s'est envolée de la base de Cap Canaveral en Floride. Et une heure plus tard, la sonde Kepler s'est détachée de son lanceur, comme prévu.
Le télescope Kepler de la NASA, lancé en 2009, alors il faut être attentif dans le son, ils disent que c'est le premier à traquer des sœurs de la Terre. Mais par contre, des télescopes envoyés pour traquer des exoplanètes, il y en a eu avant Kepler, hein, Philippe Hénarez-Jones. Il y a eu Corot au moins, hein, crois, lancé par l'Europe.
L'Europe, oui, c'était un télescope spatial. C'était la même manip que Kepler, mais qui le précédait. Et il a débroussaillé un petit peu, il a trouvé d'ailleurs quelques planètes. Il était le premier à trouver, je crois, une planète supposée tellurique, parce qu'en fait, il faut savoir que ces télescopes-là observent fixement les étoiles, ils mesurent leur lumière, et quand cette lumière baisse, ça veut dire qu'il y a un objet qui passe devant. Ouais. Et on connaît à peu près le diamètre de l'étoile, donc on voit la part de lumière qui manque, et on en déduit le diamètre de la planète. Donc quand on a le diamètre de la planète, on connaît sa taille, et on sait dire si c'est une planète plutôt rocheuse ou plutôt une géante comme Jupiter.
C'est quand même d'une minutie incroyable, hein, Franck Celsi. C'est-à-dire, pour donner une image, je ne sais pas si elle vous va, on a un grand projecteur, on fait passer devant une tête d'épingle et on mesure la différence d'intensité lumineuse que provoque le passage de cette tête d'épingle.
C'est ça. Donc en fait, les premières planètes qui ont été découvertes comme ça par leur transit, c'est-à-dire quand la planète passe devant le disque stellaire, c'était des grosses planètes et on enregistrait des diminutions de la luminosité apparente de l'ordre du pourcent inférieur au pourcent, on va dire 0,1%. Une Terre qui passe devant le Soleil, c'est environ 1/100 millième de la luminosité qui baisse. Ça veut dire qu'il faut que votre télescope soit capable de faire la différence entre 100 000 et 100 001. Et ça, Corot ne pouvait pas descendre jusque-là. Et en plus, Corot regardait un même champ d'étoiles pendant seulement quelques mois. Alors qu'avec Kepler, on avait un télescope qui était capable d'avoir une précision suffisante pour détecter l'analogue d'une Terre. Et aussi une observation en continu sur une durée qui permettait de capturer les transits plusieurs années consécutives. Parce que si on cherche un analogue d'une Terre, un transit ne va se reproduire que tous les 365 jours, alors que pour 51 Peck B, c'était tous les 4,5 jours.
Donc ça, c'est une autre planète, ce que vous dites.
C'était la première, celle trouvée par Michel Mayer et ses collègues en 1995.
Faut vous suivre, on les a pas tous, les petits noms en tête.
Excusez-moi, elles ont souvent des noms un peu barbares. Donc 51 Peck B, c'était la première exoplanète trouvée autour d'une étoile du type solaire. Et ensuite, bien sûr, on a commencé à trouver des planètes par ces transits, depuis le sol d'abord. Et ça, ça a été, je dirais, ça a levé le doute qu'il pouvait y avoir sur la réalité de ces planètes dont vous parliez avant. C'est-à-dire que en 99, pour la première fois, on a vu une de ces planètes géantes très proche de son étoile passer devant. Et donc ensuite, on est parti en quête de ces planètes avec des télescopes dédiés dans l'espace. Donc il y a eu Corot, un télescope français à la base, et puis Kepler, qui a vraiment donné une moisson, la majorité des exoplanètes connues aujourd'hui.
Incroyable, Kepler a découvert, alors je ne sais pas si mes chiffres sont à jour, mais 2470 exoplanète et il reste encore 5000 candidates, c'est-à-dire on pense qu'il y a peut-être une exoplanète, mais ça reste à confirmer, mais en général on le confirme dans 80% des cas. Donc il y a encore une moisson. Vous Dodeliné, vous n'êtes pas d'accord?
Non, c'est simplement que c'est vrai que c'est très difficile de confirmer certaines des détections de Kepler, d'accord. En tout cas leur nature planétaire, soit leur nature vraiment planétaire, soit les propriétés de la planète qui est découverte. Il y a des configurations astrophysiques un peu ennuyeuses, comme des alignements de plusieurs de plusieurs étoiles, qui peuvent faire que on a du mal à interpréter ça. Et on sait sur certains cas que en voulant confirmer des candidats détectés par Kepler, on s'est aperçu que certains n'étaient pas des exoplanètes. Donc on est un petit peu, on va dire, embêté. Néanmoins, Kepler a pu montrer énormément de choses, et notamment Kepler a trouvé des systèmes multiplanétaires assez fantastiques, oui, avec jusqu'à 6 planètes dans le même système pour Kepler.
C'est ça, c'est que la réalité dépasse ce qu'on pouvait imaginer, parce que vous avez des systèmes avec plusieurs étoiles, plusieurs planètes, oui, des planètes gazeuses à proximité de leur étoile. Enfin, finalement, des tas de configurations qu'on n'envisageait même pas.
Alors, oui, il y a une diversité étonnante. Et est-ce que c'est au-delà de l'imagination? Je pense que c'était au-delà de l'imagination des scientifiques, ouais, qui étaient forcément, je dirais, calés sur le modèle du système solaire. Par contre, dans la littérature de science-fiction, finalement, les auteurs, ouais, avaient beaucoup mieux anticipé cette diversité, et c'était pas du tout interdit de peupler l'univers des exoplanètes, ouais, qu'on trouve aujourd'hui.
Au-delà des scientifiques, c'était aussi au-delà de l'imagination de certains journalistes, hein, Philippe Hénarejo. Ciel et espace doivent faire son mea culpa. En 2003, Ciel et Espace titrait « Ils vont découvrir 1000 planètes ». Vous aviez été pessimiste, on en est déjà à 3633.
Tout dépend dans quelle échelle de temps on se place.
C'est vrai.
Donc, nous avions raison, puisque les 1000, elles sont là, et on est au-delà maintenant.
C'est bien. Continuez de lire Ciel et Espace, vous avez raison. Allez, des planètes semblables à la Terre, mais très lointaines, de quoi alimenter l'imagination. On va le voir dans un instant. Vous écoutez France Inter, et nous partons bivouaquer dans des mondes inconnus cet après-midi, à l'occasion des Nuits des Étoiles 2017.
I can see that you're giving up. It should not mean that much to me. And I don't know where the rest go. But everybody's been telling me no. Oh, woman. And I can see that you're giving up. So tell me, it should not mean this much to me. And I don't know where the rest goes. Everybody's been telling me no. But I always have a thing for you. I move the earth, but nothing made you want me better. There is nothing I can do but steal the moon, and nothing made you want me better.
Oh woman, oh man, c'était London Grammar sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Sire, vous dormez ?
Merde.
Ah bon ? Je voulais vous demander un truc.
Quoi ?
Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui habitent dans une autre galaxie ?
Oui.
Ouais, moi aussi. Et vous croyez qu'il y a des planètes où il n'y a que des chevaux, d'autres planètes où il n'y a que des furets, et d'autres planètes où il n'y a que des insectes ?
Non.
Ah ouais ? Moi, mon rêve, ça serait d'aller dans une autre galaxie. Quand je regarde le ciel avec toutes ces étoiles, la Voie lactée et tout, j'ai l'impression...
C'est marrant que vous sentiez pas le moment où il faut s'arrêter.
S'arrêter de ?
De me faire chier.
Ah, je suis désolé, Sire. Quand je m'embarque sur l'espace...
On se lève dans 3 heures, vous pouvez la fermer ?
Ouais, ouais. Bonne nuit, Sire.
Allez, nous, on s'embarque sur l'espace et pour 2 heures, un extrait de Kaamelott d'Alexandre Astier. Sylvain Boulet, l'idée du monde lointain habité, elle taraude l'esprit humain depuis des siècles, hein, pas seulement au royaume de Kaamelott.
Même des millénaires, hein, parce que déjà Épicure était l'un des premiers à parler justement de ces mondes lointains qui tournaient autour des étoiles. Alors évidemment, il a fallu pas mal de siècles pour que ça rentre dans le débat. Après, il y a effectivement Giordano Bruno qui a mal fini en parlant de la pluralité des mondes. Et finalement, cette idée de la pluralité des mondes, de la vie sur d'autres planètes, est vraiment née à la fin du 19e siècle parce qu'on commençait à comprendre ce qu'était notre propre système solaire. Mmh. Et naturellement, plus on observait avec des télescopes de plus en plus puissants, plus on était apte à décrire les planètes de notre système solaire. Et puis on se disait, bah voilà, ici, il y a de la vie. Hein. Sur la Lune, on a longtemps pensé qu'il y avait de la vie. Hein. C'était notre voisine. Bon, à la fin du 19e, on commence à plus trop y croire. Et puis, il y a Mars qui prend le dessus. À ce moment-là, on y croit vraiment. On voit totalement les analogues entre la planète Mars et la planète Terre. Et puis, au fur et à mesure du temps, on se rend compte que Mars, finalement, à la surface, il n'y avait pas grand-chose. Mmh. Mais c'est vrai que Camille Flammarion, à la fin du 19e siècle, a été quelqu'un qui a un peu allumé la bêche de cette étude. C'est extraordinaire parce que Camille Flammarion, c'était un passionné d'astronomie, mais aussi de géologie, etc. Et quand il s'intéressait, alors évidemment, il s'intéressait à l'astronomie, mais quand il débarque à l'Observatoire de Paris, il rencontre plutôt des mathématiciens, des mécaniciens célestes. Mmh. Et finalement, dès qu'il leur pose des questions, les astronomes considèrent que c'est vraiment pas une question importante. Mmh. Le Verrier en avait rien à faire de cette histoire.
Malheureusement, c'était le directeur de l'observatoire où il travaillait.
Exactement. Et en 1862, je crois, Flammarion sort son livre sur la pluralité des mondes. Hein. Il était tout jeune, il avait une vingtaine d'années. Et en voyant ça, Le Verrier vire Flammarion. À l'époque, il était encore élève astronome. Et évidemment, Le Verrier considérait que cette question-là n'était pas de l'astronomie. Mmh. Mais ça n'a pas empêché Flammarion de continuer et de faire de grandes observations, de travailler beaucoup sur la surface lunaire, sur la surface martienne, mais aussi pas mal d'autres planètes de notre système solaire. Et puis d'avancer justement cette idée que, comme il existait des planètes habitées ou habitables autour du Soleil, bien qu'il en existait forcément autour d'autres étoiles. Mmh. Et c'est étonnant parce que, j'en parlais tout à l'heure, en 1837, il y a un ministre anglais qui s'était dit... toutes les planètes sont habitées. Toutes les planètes dans le système solaire sont habitées. Il est parti de la densité moyenne d'habitants de l'Angleterre, qui était de 280 habitants au 1000 carrés. Mmh. Et à partir de cette densité, il a calculé le nombre d'habitants sur toutes les planètes de notre système solaire. Ouais. Il est arrivé quand même à 700 000 trillions d'habitants dans le système solaire. Ouais. Et finalement, Camille Flammarion dit lui-même qu'il est aussi stupide de dire que toutes les planètes sont habitées qu'aucune n'est habitée. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est important à cette époque-là, c'est de se dire, oui, la vie peut exister sur d'autres planètes, mais attention, il y a quand même certainement des conditions qu'il faut nécessaires pour voir apparaître.
Je précise, Sylvain Boulet, que la semaine prochaine, vous serez au Festival de Florence et vous ferez plusieurs conférences, dont une sur Camille Flammarion, pour ceux qui voudraient en apprendre davantage sur ces mondes habités, cette pluralité des mondes. Franck Celsis, il y a quelque chose d'intéressant, presque métaphorique, dans ce que vient de nous raconter Sylvain Boulet. C'est cette idée, on prend la population et la densité de population de l'Angleterre et on extrapole à ce qui se passe ailleurs. Est-ce que finalement, encore aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas trop souvent tendance à regarder ce qu'ils connaissent et à extrapoler sans finalement... prendre la nouveauté telle qu'elle est.
Oui, alors les scientifiques et pas que. En fait, on vit sur une planète qui est grouillante de vie. Hein. Il n'y a pas d'endroit sur Terre où il n'y a pas de vie. Et donc, il était assez naturel d'envisager la vie ailleurs. Mais la grande question, c'est est-ce qu'elle est systématique ou est-ce qu'elle est rare ? Et entre les deux, il y a un infini. Mmh. Donc, est-ce qu'il va falloir chercher la vie dans d'autres galaxies, auquel cas, ce n'est pas demain la veille qu'on le fera, ou est-ce qu'on va la trouver peut-être dans le système solaire, sous la couche de glace des satellites glacés, dans le sous-sol martien, etc., ou dans les exoplanètes les plus proches. Ça, ça reste une vraie question. Ça montre aussi la force et les limites de l'analogie. Il faut bien se rendre compte que l'exploration du système solaire, ça a pu être vu aussi comme une grande déception pour quiconque pensait qu'on était dans un système riche de vie. Mmh. On a vu se dévoiler les déserts martiens, l'atmosphère infernale de Vénus. Et donc, boum, d'un seul coup, alors, il reste des îlots où la possibilité de vie n'est pas exclue dans le système solaire, on vient d'en parler, mais on a un peu l'impression que notre regard commence à se porter vers les autres étoiles. Il n'est pas impossible qu'il y ait aussi une déception dans cette exploration-là, parce qu'on sait actuellement très peu de choses sur les exoplanètes.
Et pour éviter d'être déçu, il nous reste évidemment la fiction pour rêver. C'est le moment de retrouver Jérémy Querené pour sa chronique Arrête ton cinéma, en partenariat avec le CNES, l'agence spatiale française. Chaque semaine, il s'intéresse à notre sujet vu depuis les salles obscures.
Non, ça va pas du tout, coupez !
Arrête ton cinéma.
Monsieur Spock, bienvenue à bord.
La science-fiction n'a pas attendu la découverte de la vraie première exoplanète pour en imaginer des milliers. Souvent habitables, souvent avec une gravité et une atmosphère équivalente à la nôtre. Bref, des planètes bien pratiques pour y faire évoluer des personnages sans combinaison ni scaphandre.
À tout l'équipage, préparez-vous au décollage.
Pour faire voyager des spectateurs dans un univers cohérent, il faut de la variété et de la proximité. Autrement dit, ne pas perdre trop de temps dans les transports et montrer des planètes plutôt dépaysantes. Alors, pour aller vite à bord des vaisseaux, on peut toujours emprunter un trou noir, dépasser la vitesse de la lumière ou encore se téléporter. Et en ce qui concerne la variété des planètes, eh bien, il suffit parfois de décliner les environnements terrestres comme autant de possibles planétaires. Prenez Star Wars par exemple, on y voit une planète de neige et de glace, une planète de désert de sable, une planète entièrement urbaine, une planète recouverte de forêts, une planète volcan.
Il y a combien de planètes dans votre fédération ?
Plus de 150 sont fédérées, réparties sur 8000 années-lumière.
Vous ne devez pas rentrer tous les dimanches.
Variété en trompe-l'œil et déplacement rapide donnent souvent l'impression finalement et paradoxalement que l'univers est bien petit. Dans Star Wars encore, il semble par exemple difficile pour les rebelles de se cacher durablement malgré les innombrables cachettes, et il n'est pas rare de croiser des vieilles connaissances dans un bar, même dans une autre galaxie.
Riker à Enterprise, paré pour téléportation.
Mais l'autre grande série de science-fiction spatiale nous donne une image bien différente de la géographie spatiale. Star Trek nous raconte les aventures d'un vaisseau et de son équipage, partis à l'aventure et à l'aveuglette dans l'univers. D'ailleurs, c'est avec beaucoup de malice que le premier film Star Trek rend hommage aux missions Voyager de la NASA, des sondes parties dans les années 70 à la découverte des planètes en dehors de notre système solaire.
Elles étaient destinées à recueillir des données et à les transmettre à la Terre.
Dans son dispositif même, Star Trek met en scène l'idée d'une infinité de planètes habitables et habitées. Le monde n'y est pas fini et pas entièrement connu. Il reste toujours des planètes à découvrir et des extraterrestres à rencontrer. D'ailleurs, en bons explorateurs, dignes des navigateurs terrestres post-colonisation, les héros de Star Trek sont censés rester le plus discret possible quand ils débarquent quelque part.
Capitaine, est-ce que des formes de vie indigènes vous ont vu ?
Oh, monsieur Spock, aucune !
On ne doit pas influer sur l'évolution intrinsèque d'une civilisation étrangère, la directive première est formelle.
Plus récemment, c'est un jeu vidéo qui a illustré à merveille l'infinité de l'univers. Sorti l'été dernier, No Man's Sky place le joueur dans la peau d'un voyageur de l'espace qui peut se déplacer dans un vaste monde ouvert, ou plus exactement dans un monde presque sans fin. Le jeu, en effet, invente des planètes différentes à chaque fois qu'on décide de se poser quelque part. De façon procédurale, les algorithmes du jeu assemblent des éléments différents pour proposer des planètes toujours inédites.
L'espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage le vaisseau spatial Enterprise.
Beaucoup d'œuvres de science-fiction nous donnent finalement à voir un univers qui a l'air petit et colonisé, un peu comme notre Terre. Comme si l'humain avait juste changé la taille de son bac à sable, mais qu'il y avait toujours un bord à ce bac à sable. Mais parfois, certaines œuvres, comme Star Trek, nous prouvent que l'exploration est sans fin, et qu'à chaque fois qu'on avance, on regarde ce qu'il y a encore plus loin.
En avant toutes.
Merci Jérémy Querené, à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver la chronique de Jérémy sur le site de l'Agence spatiale française, notre partenaire CNES.fr. apprend que Celsis, vous êtes un chercheur sérieux, vous aussi d'ailleurs, hein, Sylvain Boulet. La science-fiction, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous amuse ou pas?
Alors déjà, je pense que sans la science-fiction, je ne ferais pas ce métier.
Ah ouais, carrément.
Donc je pense que voilà, le regard porté sur les étoiles, quand on n'a pas le bagage mathématique, physique, ben on le fait à travers les littératures, de l'imaginaire et les films. Ouais.
C'est ce qui vous a donné envie de vous y intéresser, en
fait. Oui, je pense clairement, des films comme Rencontre du troisième type, 2001 Odyssée de l'espace, et voilà, des séries comme Star Trek, mais ça c'est arrivé tardivement en France. Mais je sais que quand je me suis commencé à m'intéresser aux exoplanètes, au début de ma thèse, quoi, juste à peu près au moment de la découverte de la première exoplanète, j'avais cette idée qui me trottait en tête de me dire, et si les exoplanètes s'avèrent extrêmement rares, on va porter un coup assez dur, voire fatal, ouais, à une certaine forme de science-fiction, à un certain space opéra, alors qu'on peut toujours déplacer dans un autre univers comme Star Wars, qui finalement est que marginalement de la science-fiction, c'est plutôt de la fantasy, mais la science-fiction un peu réaliste va avoir des gros problèmes. Alors, ouf,
oui,
quelques années après, on voit qu'il y a une telle diversité que pour l'instant, de ce qu'on connaît, voilà, je dirais, il n'y a pas de problème, les auteurs peuvent se lâcher. À ceci près, oui, que par contre, pour les étoiles proches de nous, où les auteurs de science-fiction n'hésitent pas à placer le cadre de leurs histoires, comme Alpha du Centaure, les étoiles, il va commencer à falloir faire attention, notamment le film Avatar, qui se passe dans le système Alpha du Centaure, sur un satellite d'une planète géante, on commencerait à le savoir si elle y était, cette planète géante. Donc, par contre, c'est un peu comme l'exploration de la Terre, on ne peut plus dire ce qu'on veut sur les étoiles proches.
Oui, alors il y a une étoile dont on va parler, hein, une planète qui tourne autour de Proxima du Centaure, Proxima B. Oui. Vous avez contribué à sa découverte et on va en parler dans un instant, le temps d'un bivouac sur France Inter. Léa Vincent chantait Neuilly sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Et si la Terre avait une jumelle, une planète jumelle? On vient en effet de découvrir que ce qu'on appelle une exoplanète, une planète en dehors de notre système solaire, une de plus, vous me direz. Les astronomes en ont déjà découvert près de 4000, mais celle-là est sans doute la plus proche de nous et potentiellement habitable. C'est le magazine Nature qui fait cette révélation et cette planète a déjà un nom, presque un nom de cheval de course, Proxima B.
Un nom de cheval de course. C'était un extrait du journal de France Inter du 24 août 2016. Hein. C'était il y a moins d'un an ou un an tout juste. Vous étiez dans le coup de cette découverte, Franck Celsis.
Alors oui, plus ou moins, j'étais dans le consortium, mais moi je ne suis pas vraiment un observateur, même pas du tout. Donc il faut laisser à César, voilà. Par contre, oui, j'étais dans le coup, mais au sens, ouais, large,
au sens large.
Et très vite, on s'est penché sur ce cas-là.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier, comme particularité, ce cas ?
Alors, ce cas, bon, il est fascinant et agaçant à la fois. Il est fascinant parce que c'est l'étoile la plus proche de nous.
Ouais.
La plus proche du Soleil, bien sûr, par le Soleil. C'est dans un système de 3 étoiles, 2 qui sont de type solaire et qui sont assez proches l'une de l'autre, hein, qui sont grosso modo à une distance l'une de l'autre qui est à peu près la distance Soleil-Neptune, on va dire quelque chose comme ça, 20 fois la distance Terre-Soleil. Et puis, à 150 000 fois la distance Terre-Soleil de ce duo, il y a une troisième étoile qui est une toute petite étoile rouge qu'on appelle Proxima, parce que des trois, c'est actuellement la plus proche de nous. Mmh. Et sur laquelle on a de telles qualités d'observation du fait de sa proximité et donc sa luminosité, on a pu appliquer cette méthode dite de vitesse radiale, qui est de la spectroscopie à haute résolution. C'est ça qui a permis de découvrir la première exoplanète. Et on a vu une modulation de quelques jours, je ne l'ai même plus en tête, c'est une dizaine de jours, je crois 11 jours. Mais c'est aussi très agaçant, c'est très frustrant, parce que alors celle-là, on n'en sait vraiment pas grand-chose. Mmh. On a une limite inférieure sur la masse, donc on sait qu'elle fait au moins la masse de la Terre, mais elle peut faire pas mal plus. On n'a aucune information sur son diamètre. Par contre, à partir de la période orbitale, comme on connaît bien l'étoile, on peut en déduire son insolation, si vous voulez, la quantité de lumière qu'elle reçoit. Et si on fait des modèles climatiques autour de, enfin, étant donné ces conditions, en variant les compositions atmosphériques, etc., on voit qu'il n'est pas interdit. C'est comme ça qu'il faut le dire. Il n'est pas impossible, moyennant que la planète ait de l'eau et ce qu'il faut, qu'elle ait un climat qui ait des similitudes avec la Terre. Mais ce n'est sûrement pas une jumelle de la Terre.
Mais vous dites qu'elle est la plus proche, c'est celle qui est la plus proche de nous, en tout cas détectée autour de l'étoile la plus proche de nous. Ça veut dire quelle distance, en fait ?
C'est un peu plus de 4 années-lumière.
Donc c'est énorme, en fait.
Ben, ça dépend, c'est tout petit à l'échelle de la galaxie, c'est très grand à l'échelle du système solaire et bien sûr de nos distances humaines.
Mais c'est-à-dire que déjà on n'y posera pas le pied de sitôt et on ne peut même pas y envoyer une sonde. Oui, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, évidemment. Non mais on n'enverra même pas de sonde sur une telle...
Alors c'est très difficile de l'envisager, bien sûr, avec nos technologies et notre maîtrise de l'énergie actuelle. Simplement, ben, peut-être Philippe veut en parler, mais c'est envisagé.
Philippe Hénarejos.
Il se passe quelque chose avec cette planète. Oui. C'est la plus proche. Donc, ça motive un petit peu l'imagination et pas simplement celle de la science-fiction. Donc, il y a quand même des gens qui ont recommencé à plancher sur le problème du voyage interstellaire, du coup. Parce que là, on a quand même une planète qui va être intéressante sur le plan scientifique, même si elle n'est pas une jumelle de la Terre, ce sera très intéressant de pouvoir aller l'explorer. Oui. On se dit quand même, c'est la porte à côté,
à l'échelle de l'univers. 4 années-lumière. On rappelle, 4 années-lumière, ça veut dire que si on se déplace à la vitesse de la lumière, ce qu'on ne sait pas encore faire, on met 4 ans.
Voilà.
Ça donne quand même...
Attention, met 4 ans vu de ceux qui restent chez nous. Si vous vous déplacez à la vitesse de la lumière, c'est impossible, mais si vous en rapprochez autant que vous voulez, le voyage peut être instantané. Pour vous, voyageurs, ça c'est la relativité qui nous dit ça. Par contre, nous qui restons et qui vous regardons voyager dans votre voyage, nous aurons des nouvelles de votre arrivée qu'au plus tôt 4 ans après. Par contre, et c'est le côté fabuleux de la relativité, c'est que vous pouvez traverser l'univers en un temps aussi court que vous voulez. Si vous pouvez dire adieu à tout ce que vous laissez sur Terre.
Philippe,
on
est dans la science-fiction là où on...
Ce sont les lois de la physique.
Non, mais là c'est un voyage dans le temps, parce que du coup quand on revient...
Dans le temps et l'espace.
Non, ouais.
C'est indissociable.
Si vous rapprochez aussi proche que vous voulez de la vitesse de la lumière, imaginons, ça nécessiterait des quantités d'énergie fabuleuses, imaginons que vous faisiez le trajet jusqu'à Proxima en quelques semaines... Vous revenez aussi en quelques semaines. Et bah, par contre, il s'est passé 8 ou 9 ans au minimum sur Terre. Sûrement beaucoup plus. Sûrement des centaines d'années. Voilà, c'est le paradoxe des jumeaux de l'engin. Oui.
Mais là, des voyages comme ça, si on les envisage, c'est pour dans combien de temps ?
Aucune idée. Au-delà de ce que je peux
concevoir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on recommence à mettre cette réflexion en marche et qu'il y a des gens qui ont eu une initiative qui imaginent des microsondes. Ça paraît fou. Moi, quand j'ai entendu parler de ce projet, je me suis dit c'est n'importe quoi. En fait, quand on le regarde, c'est quand même très intéressant. Les sondes qui n'emportent pas leur carburant, qui sont propulsées par un rayon laser, qui communiquent et qui, en gros, passent à toute vitesse et envoient une photo. photo. Mmh. Je rentre pas dans les détails, mais c'est pas si fou que ça, et ça pourrait avoir des implications plus près de nous, pour aller visiter les planètes du système solaire en quelques jours, quelques semaines, avec des choses un peu plus grosses. S'il y a un développement technologique, en tout cas, on avancera vers cet avenir rêvé.
Allez, avenir dans la deuxième heure, hein. C'est passé très vite, on a encore une heure pour en parler. Sylvain Boulet, Philippe Hénarejos et Franck Celsi sont avec nous, on a encore beaucoup de choses à se raconter, on vous retrouve juste après le flash.